Et nous commençons donc une nouvelle série aujourd'hui sur l'évangile de Marc, ça vous avait été annoncé, et c'est probablement une série qui va nous tenir en haleine de nombreuses semaines, de nombreux mois, et on va y passer bien plus d'un an, à mon avis au moins un an et demi, sur cette série de prédications. Et c'est la première que nous allons voir ensemble aujourd'hui. On va aborder les 8 premiers versets de l'évangile de Marc, et nous allons lire ensemble dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, versets 1 à 8. Marc 1, versets 1 à 8. Je lis dans la version NBS que j'ai très légèrement remaniée ici et là. Marc 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut, lui qui baptisait dans le désert et qui proclamait un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, confessant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un manteau de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient après moi, celui qui est plus fort que moi, et je ne mérite même pas de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint. » Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour l'occasion que nous avons de pouvoir aborder l'Évangile ensemble. Merci parce que nous avons d'une part l'accès à ces textes qui nous permettent de lire et de comprendre le message qui nous raconte ce que tu as fait, tes grandes œuvres Seigneur sur cette terre. Et Seigneur, nous voulons te remercier aussi d'avoir la liberté de le faire, de pouvoir ouvrir la parole, de pouvoir exposer la parole dans une société qui ne nous est certes pas favorable Seigneur, mais qui ne s'oppose pas à nous lorsque nous prêchons pour le moment. Et nous te remercions, Seigneur notre Dieu, d'avoir cette liberté. Nous te remercions d'avoir cette grâce de pouvoir plonger nos regards dans les Écritures et de découvrir toi tel que tu es. Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui pour que nous puissions nous souvenir que toute chose pointe vers toi dans ce monde, en particulier dans ta parole, Seigneur. Et nous voulons te prier pour voir combien tu es grand, combien tu es glorieux et combien tu es devant nous, Seigneur, comme un Dieu merveilleux, majestueux que nous voulons adorer. Seigneur, bénis ce temps que nous allons avoir ensemble, bénis ta parole, bénis ce texte afin qu'il puisse nous parler d'une manière spéciale. Encourage-nous, Seigneur, fais-nous du bien alors que nous regardons ce texte et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est, n'est-ce pas, les 8 premiers versets, les 8 premières lignes, même si je puis me permettre, de l'évangile de Marc. Et c'est paradoxal qu'on commence avec l'évangile de Marc. C'est très paradoxal parce qu'au moment où je me préparais à aborder cette série, je me suis rendu compte que de nombreux collègues dans le monde francophone étaient soit en train de faire l'évangile de Marc, soit venaient de terminer l'évangile de Marc, à un point tel que je me suis demandé si l'évangile de Marc n'était pas l'évangile le plus populaire qui existe. Mais pourtant, malgré cette popularité nouvelle, j'allais dire, elle n'est pas si nouvelle que cela, l'évangile de Marc, il a été pendant longtemps considéré comme un évangile oublié. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'Église, eh bien, on le regardait un peu avec suspicion pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il est extrêmement concis, il est très court, il est assez avare en détails narratifs et souvent, il est de manière très étonnante, très 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 direct dans sa manière d'aborder le témoignage de Jésus-Christ. J'ai vu circuler un dessin sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un mème, vous voyez, c'est des espèces de dessins humoristiques qui circulent parfois sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et ce mème c'était 4 petites vignettes de bande dessinée qui étaient censées représenter les 4 évangiles, et chaque évangile se décrivait dans sa manière de commencer l'évangile en quelque sorte. Et le premier c'était Matthieu qui disait « Avant de commencer, je vais vous raconter l'histoire de pourquoi Jésus est roi. » Luc commençait en disant « Avant de commencer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant que Jésus naisse. » Jean commençait en disant « Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi Jésus est Dieu. » Et puis arrivé à Marc, la vignette disait « Bon allez hop, on commence là, vous voyez ?» Et c'est vraiment le sentiment qu'on a lorsqu'on se plonge dans l'évangile de Marc, il ne fait pas de préalable. Il n'y a pas de procédé supplémentaire, il y va, il avance, il fonce, il vous parle directement de Jésus. La seule phrase d'introduction qu'on trouve, c'est celle du verset 1. commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Je pense qu'on aurait peut-être même pu faire moins étoffé que ça, ça aurait été difficile, mais c'est ce qu'il fait, en tout cas, lui. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi concis? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de détails? Il y a là encore plusieurs raisons, mais je pense que les principales, c'est que Marc veut absolument se focaliser sur Jésus et sur rien d'autre. Ce qu'il veut, c'est son ministère. Il veut se focaliser sur ce que Jésus a fait, sur l'œuvre accomplie par Christ pour le salut des pécheurs. Bref, Dieu qui se fait homme pour notre salut, c'est tout ce qui l'intéresse. Il ne veut pas déborder de ce cadre. Et puis d'autre part, il est tout à fait probable, même sûr et certain aujourd'hui, que l'auditoire de Marc était majoritairement chrétien, probablement des chrétiens à Rome. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Marc a été écrit au tout début des années 60. Je pense que Marc n'est pas le premier évangile. Tous les spécialistes du Nouveau Testament ne sont pas d'accord avec ça. La plupart estiment que Marc était le premier à avoir été rédigé. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par ces arguments. C'est un débat un peu technique, mais je pense que, en tout cas, les lecteurs de Marc qui recevaient ce texte dans un premier temps, c'était des chrétiens, et que ces chrétiens connaissaient déjà pas mal de traditions orales, peut-être même avaient déjà eu accès à une partie de l'évangile de Matthieu, j'en sais rien, mais en tout cas, ils connaissaient pas mal de détails de la vie de Jésus, de sorte que Marc, en fait, il ne s'embarrasse pas de fioritures, il leur donne le témoignage qu'il veut leur donner au sujet de l'évangile, et il ne rajoute pas de superflu, parce qu'ils savent qu'ils connaissent déjà tout cela très bien, vous voyez. On dit parfois que Marc, c'est ce qu'on appelle un récit de la passion, avec une introduction, autrement dit, un récit de la mort et la résurrection de Jésus, avec juste une longue introduction. Alors bien sûr, c'est un peu exagéré, mais ça reflète bien l'accent, l'emphase que Marc souhaite mettre sur la mort de Christ à la croix. Donc, un évangile qui est court, un évangile qui est concis, dense, un évangile qui ne s'embarrasse pas de détails, et un évangile qui met l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus. Une fois qu'on a dit ces choses-là, eh bien, l'évangile de Marc, il n'est pas sans structure, comme tous les autres évangiles. Et je vous rappelle que les évangélistes, lorsqu'ils ont écrit leurs évangiles, ils n'ont jamais voulu simplement rédiger une notice biographique, ça n'a jamais été leur but. Ils ont une logique, ils ont un objectif théologique, que dis-je, un objectif christologique, et il entend le communiquer. Et donc les 13 premiers versets, dont on a lu que 8 ce matin, mais les 13 premiers versets, c'est ce qu'on appelle un prologue, le commencement de l'évangile, un petit peu de la même manière que Jean fait son prologue de l'évangile, des versets 1 à 18 de l'évangile de Jean. Et dans ce prologue, ces 13 premiers versets, eh bien on a trois récits. On a le ministère de Jean, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui, les 8 premiers versets. Puis vous avez le récit du baptême de Jésus, un récit qui est commun à tous les évangiles, ou presque. Et vous avez le récit de la tentation de Jésus. Ce sont des récits qui, là encore, se retrouvent dans Luc et dans Matthieu. Et les trois affirmations qui sont faites au sujet de ce ministère de Jean, de ce baptême de Jésus et de cette tentation de Jésus, c'est que Jésus est plus fort, Jésus est plus grand. Il est plus fort que Jean-Baptiste. Il est plus fort que le reste des hommes. Il est plus fort que le diable. Et dans ces 8 premiers versets qu'on lit aujourd'hui, le message central, s'il y a une idée clé qui ressort de ce texte, c'est que Jésus est plus fort que Jean. Il est plus grand que le plus puissant des prophètes de l'athée, Jean-Baptiste lui-même. Et ce que je vous propose, c'est que nous tentions ensemble de regarder ce que ce texte nous apprend, ce que ce texte veut nous communiquer. Et très honnêtement, la première chose que je veux absolument relever lorsqu'on regarde ce texte, c'est que même si les apparences laissent entendre le contraire, ce texte ne se focalise pas sur Jean-Baptiste, ce texte se focalise sur Jésus-Christ. Ce texte ne se focalise pas sur Jean-Baptiste, en réalité ce texte se focalise sur Jésus-Christ. Alors c'est très clair au verset 1, le verset 1 dit que c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ce verset-là, il n'est pas placé ici par hasard, et les spécialistes discutent beaucoup de la fonction précise de ce verset 1, notamment de savoir si c'est une introduction juste pour le prologue, pour les 13 premiers versets, ou si c'est une introduction pour l'ensemble de l'évangile de Marc. Alors, les spécialistes qui s'intéressent à cela ont longuement écrit sur ce sujet-là, mais j'ai envie de vous dire, au final, ça ne change pas grand-chose, parce que même si ce n'est que l'introduction du prologue, c'est mon avis, c'est ma position personnelle, eh bien, puisque c'est le prologue, et puisque c'est un verset qui introduit le prologue, au final, il sert quelque part d'introduction au travers du prologue à l'ensemble de l'évangile. c'est le prologue de Marc tout entier qui est appelé le commencement, mais ce faisant, la phrase « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu », eh bien, elle sert de point de départ à l'ensemble de l'évangile de Marc. Alors la phrase, pareil, hein, est très courte, c'est classique, c'est le style de Marc, chaque mot est important, il parle d'un évangile. Alors je ne vais pas apprendre à vous tous qui nous fréquentez depuis très longtemps, je connais toutes les têtes qui sont présentes ici aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que l'évangile, mais d'emblée, Marc présente son récit comme une bonne nouvelle. Et comme je vous le disais, les auditeurs de Marc savaient très bien ce que c'était que la bonne nouvelle. Donc quand ils commencent comme ça, ils savent que ce récit va porter sur les actes glorieux de Christ en faveur des pécheurs, les actes glorieux du Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour les sauver. D'ailleurs, Marc précise qu'il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors l'idée certainement c'est de souligner la messianité de Jésus, hein. Christ c'est le mot grec pour Machia en hébreu, c'est loin, c'est le Messie que les Juifs, le peuple de Dieu attendait, c'est celui qui était promis dès les temps anciens, celui d'ailleurs que les Juifs du 1er siècle attendaient plus ardemment que jamais, il est, n'est-ce pas, cet homme qui était promis, cet homme promis dès après la chute, cet homme issu de la descendance de la femme, cet homme qui récapitule toutes les promesses messianiques en lui. Et certainement, Marc, en commençant par « Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu », il veut non seulement souligner la messianité de Jésus, mais également sa divinité. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Bien, si vous regardez dans vos Bibles au verset 14, vous allez voir un thème qui va revenir régulièrement dans l'évangile de Marc, c'est qu'il associe la notion de bonne nouvelle et d'évangile directement à la personne de Dieu. Et quand vous regardez bien les 13 premiers versets, c'est le prologue. Verset 14, on rentre dans le corps de l'évangile. Donc tout commence avec la bonne nouvelle de Jésus, comme si elle était mise en parallèle avec la bonne nouvelle de Dieu. Donc d'un côté, il est le Christ, ce Messie qu'on attendait. De l'autre, il est ce Dieu fait homme. C'est l'évangile de Jésus, l'évangile de Dieu, c'est une seule et même chose. Et il va sans dire que d'emblée, par une simple phrase, Marc commence en soulignant la divinité et l'humanité, la messianité de Jésus. D'ailleurs, l'expression « fils de Dieu », qui au passage n'est pas dans tous les manuscrits, mais je pense que c'est tout à fait pertinent de l'inclure dans nos traductions compte tenu des manuscrits qui la possèdent, eh bien cette expression qui est typique de Marc, eh bien elle souligne ce que nous venons de dire. Il est à la fois ce Messie promis, mais également ce Dieu qui vient parmi nous. Je rappelle simplement, hein, ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises ici à l'Église, que l'expression « fils de Dieu », elle est régulièrement associée à cette vision royale, cette vision messianique, et c'est peut-être le sens que Marc veut souligner, le sens qu'il veut accentuer. Bref, dans tous les cas, d'emblée, nous voyons Jésus qui est l'homme, Dieu, qui se présente, et c'est son évangile que nous allons lire. C'est comme si Marc disait en quelque sorte, les lignes que vous vous apprêtez à lire sont le récit de la bonne nouvelle, ce roi Messie qu'on appelle Jésus, Dieu fait homme. Voilà un développement, voilà une défactorisation, j'allais dire, de cette proposition très condensée de Marc que l'on retrouve dès le premier verset de ce texte. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit au verset 1, d'accord ? Ça commence par Jésus. Mais ce n'est pas tout. Parce que si vous regardez les deux versets suivants, vous allez vous rendre compte que l'évangile de Jésus-Christ, c'est ni plus ni moins que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que juste après cette phrase d'introduction, regardez ce que note Marc. Il cite l'Ancien Testament, il dit « Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, voici j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, si vous êtes un lecteur averti, avisé, habituel de la Bible et de l'Évangile en particulier, vous savez qu'ici, on a une petite difficulté. Vous avez Marc qui vous dit, voilà ce qui est écrit dans Ésaïe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement Ésaïe qui est cité là. Cette citation, en réalité, c'est une combinaison de plusieurs textes de l'Ancien Testament. Alors oui, la citation qui dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Oui, ça s'est bien tiré d'Ésaïe 40, verset 3. Mais le « j'envoie devant toi ou devant ta face mon messager pour frayer ton chemin », il semble que ça sorte plutôt du livre de Malachie, chapitre 3, verset 1. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous comparez Malachie, vous comparez Marc, le devant ta face, le devant toi, là, il n'est pas dans Malachie. Et le plus probable, c'est qu'en fait, ça soit une combinaison de Malachie et d'Exode 23, 20. Donc, on a un mix entre deux ou trois citations, probablement trois, c'est-à-dire Ésaïe 40, Exode 23 et Malachie chapitre 3. Et nous voyons Marc qui ne l'attribue qu'à Ésaïe. Et beaucoup de gens tombent sur ce style, ce qu'on appelle un marqueur d'attribution. Vous savez, quand l'auteur de l'évangile cite une phrase pour attribuer un texte ancien, il voit ça, il se dit « Mais mince, Marc s'est trompé ». C'est typique de la projection de nos propres pratiques d'écriture sur les auteurs du 1er siècle. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser Word ou Excel ou tous ces styles de logiciels, mais si vous écrivez sur Word quelque chose et que vous avez envie de faire référence à un ouvrage ancien, ce que vous faites, c'est que vous mettez ce qu'on appelle une note de bas de page. D'accord ? Et généralement, si vous êtes en train de faire des études, ce qu'on exige de vous, c'est que vous mettiez bien toutes vos notes de bas de page. Si vous faites une citation sans mettre vos notes de bas de page, vous êtes vraiment dans un grand trouble. Et c'est une des choses où depuis mon premier master, je me fais littéralement harceler par mes professeurs. On avait même un logiciel quand j'étais aux États-Unis qui regardait le pourcentage de citations que j'effectuais et il vérifiait chacune de mes notes de bas de page pour voir si j'avais cité la source. Peter O'Brien, un spécialiste de l'Ancien Testament, s'est fait récemment retirer de la vente tous les commentaires qu'il avait écrits parce qu'on estimait qu'il avait plagié son ancien professeur qui s'appelait F.F. Bruce, vous voyez ? Et on l'a fait à l'époque de Peter O'Brien, on prenait des notes sur des fiches, il n'avait pas forcément noté l'origine de la source, il ne l'avait pas remis dans son évangile, et puis un jour quelqu'un a été faire des recherches et il a dit « Oh, regardez, ça c'est du plagiat !» Et il a subi une véritable vindicte. On a retiré tous ses commentaires et certains de ses livres de la vente. Le standard académique du 21e siècle, c'est que quand tu fais une citation, tu identifies bien la source. Mais au 1er siècle, il n'y avait pas cette pression qui pesait sur les auteurs, premièrement. Et deuxièmement, ils avaient beaucoup plus de liberté quand ils souhaitaient citer la source. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que quand vous avez une combinaison de sources qui sont citées, souvent l'auteur, s'il veut le mentionner, quand il le mentionne, il ne cite que la source la plus importante. Et c'est exactement ce que fait Marc ici. C'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, hein, un excellent argument pour justifier le fait que Marc serait un évangile écrit au 1er siècle. Il y a des spécialistes qui ne sont pas évangéliques, qui critiquent cela, mais ce style de procédé, cette combinaison de sources avec une seule citation la plus importante qui est attribuée, est un des arguments qu'on peut utiliser pour dater l'évangile de Marc au 1er siècle. Alors, cette citation d'Ésaïe, elle est associée avec le personnage de Jean. Vous savez, cette citation qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, cette voix qui crie dans le désert », elle est associée avec le personnage de Jean-Baptiste dans les quatre évangiles. Et ça vous montre que ce lien-là, il était probablement antérieur à la rédaction des évangiles. Je vous rappelle que les évangiles ne sont pas les premiers textes chrétiens à avoir été écrits. Ce sont les épîtres de Paul, certaines épîtres de Paul, qui étaient les plus anciennes. Les évangiles sont venus plus tard, le plus tardif étant l'évangile de Jean, mais ils sont venus après les premières épîtres de Paul. Et certainement, cette tradition au sujet de Jean, cette identification d'Ésaïe 40 avec Jean, était très, très bien connue. D'ailleurs, le plus probable, c'est que c'est Jean lui-même qui faisait le lien entre ce verset-là et son propre ministère. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que quand les pharisiens viennent le voir dans Jean 1, 23, et qui lui disent « Mais qui es-tu ? » Il leur répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparer, aplanisser le chemin du Seigneur. Donc, l'idée, vous voyez, c'est que Jean lui-même se présentait et présentait son ministère comme un précurseur, en quelque sorte, de Jésus-Christ. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'accent, dès le début de cet évangile, il n'est pas vraiment mis sur la personne de Jean-Baptiste. Là encore, on commence, Jésus n'est presque pas mentionné, il n'entre pas encore en scène, on a Jean qui rentre en scène, mais le focus est mis sur Jésus, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, en réalité cet évangile se focalise quasi exclusivement sur Jésus, il n'a pas de temps à perdre, et la citation qui est attribuée à Jean ici, eh bien c'est une citation, ou plutôt cette citation d'Ésaïe 40 qui est associée à Jean, c'est une citation qui pointe vers Jésus. Soit dit en passant, Quand vous regardez la citation originale d'Ésaïe 40 dans le contexte, qui est-ce qui est le Seigneur dont il faut aplanir les sentiers? C'est Yahweh, c'est Dieu lui-même. Et Jean, en s'auto-attribuant, et les évangélistes, en rappelant cette auto-attribution d'Ésaïe 40 au ministère de Jean, nous rappellent implicitement que Jésus est plus qu'un simple homme, qu'il est ce grand Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour accomplir ce grand ministère. Autrement dit, l'évangile de Christ, l'homme, Dieu, n'est ni plus ni moins que l'accomplissement des Écritures. Regardez cette combinaison de citations qui sont accomplies, récapitulées en lui. Toutes les Écritures sont récapitulées en lui. Et son œuvre, c'est tout ce que les chrétiens du passé attendaient. C'est tout ce que les auditeurs de Marc voulaient voir arriver. Et c'est ce que Marc entend leur démontrer. Cet évangile, ce récit, le ministère de Jean et tout le reste, tout cela ne fait que pointer vers Jésus. Et ça nous conduit directement à notre deuxième point, deuxième observation que je veux faire sur ce texte. Eh bien, le ministère de Jean-Baptiste ne fait que préparer celui de Christ. Ok. Ce que je viens de vous dire ici, c'est que au moment où Jean-Baptiste rentre en scène, au moment où il apparaît dans l'évangile de Marc, eh bien, les prophéties de Malachie 3 et les prophéties d'Ésaïe 40 sont en marche. La raison pour laquelle j'estime que ces deux prophéties montrent que le ministère de Jean-Baptiste est en quelque sorte effacé, éclipsé par celui de Jésus, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux indications dans ce texte, deux pratiques, avant même son message, qui nous laissent penser que Jean-Baptiste lui-même cherchait à laisser la place d'emblée à quelqu'un qui était plus grand que lui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Premièrement parce que Premièrement parce que Jean-Baptiste s'habillait d'une certaine manière. Deuxièmement parce que Jean-Baptiste baptisait d'une certaine manière. Ok, laisse-moi vous expliquer ce que j'ai en tête. Déjà, regardez comment Jean s'habille. Je sais que nous venons en Église de parcourir de nombreux passages de l'Ancien Testament dans le cadre du cycle d'Élie et d'Élisée. Je sais qu'on a déjà discuté ensemble de la fonction précise du manteau de poil d'Élie qui probablement a été transmis à Élisée au moment où Élie a été enlevé au ciel. Et on se souvient donc de cet accoutrement qu'on voit, un manteau de poil, une ceinture de cuir, de Rois chapitre 1 verset 8. Et on voit que l'accoutrement de Jean-Baptiste verset 6, c'est exactement la même chose. Si tant est qu'il y a une petite précision en plus, c'était un manteau de poil de chameau, d'accord? Et le fait que Jean-Baptiste, en plus de cela, ne faisait que se nourrir de sauterelles et de miel sauvage, c'est peut-être, je ne peux pas le prouver, mais peut-être, c'est une référence à Élie quand il était au torrent du Kérit et qu'il se faisait nourrir par des corbeaux. Il est évident que les corbeaux n'allaient pas lui ramener une vache complète, ils devaient lui ramener des insectes et des choses comme ça, vous voyez? Et c'est typiquement le style de menu que Élie devait manger au torrent du Kérit. Donc on a en quelque sorte Jean-Baptiste, premier siècle après Jésus-Christ, ou pendant le ministère de Christ pour être plus précis, on a ce Jean-Baptiste qui s'habille exactement comme s'habillait Élie au 9e siècle avant Jésus-Christ. Ok, au 2e siècle après Jésus-Christ, vous avez un groupe de personnes, pas tous mais certains, ce qu'on appelait les apologistes. On parlait souvent du siècle des apologistes, deuxième, troisième, un peu à cheval sur ces deux siècles. Certains de ces apologistes, pour pouvoir plus facilement évangéliser, partager leur foi et répondre aux objections de leurs contradicteurs, ils revêtaient une toge très significative qui était celle qu'utilisaient les philosophes, sans doute pour faciliter la discussion avec eux ou pour passer pour des personnes de raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on exige d'un prédicateur qu'il mette une cravate pour être sérieux, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous savez que je ne suis pas sérieux, ça c'est une chose que vous auriez dû remarquer depuis longtemps. On dit en fait que l'habit ne fait pas le moine. Vous connaissez cette expression certainement au Québec, en France on l'a. Ok, c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que vous êtes habillé en moine que vous êtes un moine vertueux, c'est ça que l'expression veut dire. Néanmoins, si vous croisez un moine dans la rue et que vous le voyez habillé en moine, vous allez vous dire « Ah, c'est un moine !» Et c'était exactement ce que ces apologistes cherchaient, et probablement c'était aussi ce que Jean-Baptiste cherchait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que vous vous souvenez, on l'avait souligné, que 4 siècles, 3 siècles avant Jésus-Christ, des gens qui se faisaient passer pour des prophètes, des faux prophètes, se revêtaient de vêtements de poils afin de se faire passer pour un vrai prophète. C'est ce que dit le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 13, versets 4 et 5. Et je vous avais dit à l'époque, il semble que des prophètes, ou du moins une partie des prophètes après Élie, eh bien, ils avaient adopté son accoutrement. Et quand vous étiez en train de vous habiller comme ça, ça voulait dire en quelque sorte, « Regardez-moi, je suis un prophète. » Et quand on prend tous ces éléments-là en considération, vous voyez, le fait que Deux Rois chapitre 1, verset 8, c'est exactement le même accoutrement que Marc 1, verset 6, et on voit que certains cherchaient à s'habiller comme des prophètes alors qu'ils ne l'étaient pas en prenant le même accoutrement en Zacharie 13, 4 et 5, eh bien, très probablement ici, on comprend pourquoi Marc a décidé d'utiliser ces deux citations de Malachie et d'Ésaïe 40. Et là, vous ne me suivez plus. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai en tête. Ok. Essayez de vous concentrer et de suivre ce que je vais vous dire là. Première chose, si vous regardez le livre de Malachie, et que vous regardez le chapitre 3. Alors Malachie, il y a une petite difficulté là encore, c'est qu'on n'a pas tous la même versification. Parfois, ça s'arrête à la fin du chapitre 3, et parfois vous avez un chapitre 4, mais si vous lisez dans la colombe, par exemple, il n'y a pas de chapitre 4. Ça va jusqu'à 3.29, vous voyez. Mais si vous lisez, 3.23, pardon, si vous lisez la fin de Malachie, vous allez voir un verset qui est particulièrement énigmatique. Vous avez Dieu lui-même qui dit « Voici, je vous enverrai le prophète Élie » avant la venue du jour de l'Éternel, avant la venue du jour de Yahweh. Et pour annoncer ce verset, il utilise exactement la même formulation qu'en Malachie 3.1, il dit « Voici, j'enverrai ». Il est tout à fait probable, il fait peu de doute même, que pour les premiers lecteurs, le messager de Malachie 3.1 et l'Élie de Malachie 4.5, c'était une seule et même personne. Donc le messager qui allait être envoyé devant le Seigneur, c'était ce nouvel Élie qu'on attendait. Donc, quand vous avez Marc qui met côte à côte les deux citations de Malachie 3.1 et d'Ésaïe 43, eh bien, très certainement, ce que fait Marc, c'est qu'il associe la voix qui crie dans le désert avec le nouvel Élie de Malachie. Autrement dit, ce que veut vous montrer à Marc à propos de Jean, c'est que Jean-Baptiste, premièrement, s'habillait comme Élie. Deuxièmement, où est-ce qu'il baptisait ? Dans le désert. Et donc, il veut prendre ces deux citations, les regrouper et vous montrer, regardez comment le ministère de Jean correspond à ce qui vous était annoncé dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas tout. Je viens de vous dire que Jean vivait dans le désert. En tout cas, il y passait du temps dans le désert. Mais comment vous vous habillez quand vous vivez dans le désert ? Vous prenez un morceau de tissu épais, généralement un morceau blanc pour résister à la chaleur. La dernière chose que vous faites, c'est de vous mettre un vêtement de peau. Où est-ce qu'on met des vêtements de peau ? Ben, au Québec. On met un vêtement de peau au Québec, en Ontario, à Vancouver, parce que c'est là où il fait froid. Mais si vous mettez un manteau de peau pour aller au désert, c'est pas très logique. Cependant, c'est ce que fait Jean-Baptiste, et c'est peu probable qu'il faisait ça par commodité, c'est peu probable qu'il faisait ça parce qu'il traînait avec une tribu de nomades qui vivait dans le désert et qu'il voulait s'identifier à eux. Certains ont essayé de dire qu'il allait dans le désert où il y avait les grottes de Qumran et donc qu'il s'identifiait à la secte de Qumran. Il est peu probable que la secte de Qumran, quelle qu'elle soit, elle avait des vêtements de peau de bête. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que très certainement, Jean a choisi volontairement, délibérément, de s'habiller comme ça. C'était pas les vêtements les plus confortables, c'était pas les vêtements les plus appropriés, mais c'était les vêtements qui allaient montrer à coup sûr qu'il plaçait son ministère sous le signe de ses prophéties d'Ésaïe 40, sous le signe de ses prophéties de Malachie 3. En d'autres termes, Jean se présente lui-même comme ce fameux Élie qui devait venir. Et l'idée, c'est que cet Élie qui devait venir, cette voix qui crie dans le désert, ces personnages annoncés dans l'Ancien Testament, viennent vous dire que le jour de Yahweh est venu, viennent vous dire que le Seigneur est enfin arrivé. Donc Marc n'a pas besoin de vous raconter l'enfance ou la naissance de Jésus, il vous dit, vous voyez Jean ? Ben, dès l'instant que vous voyez Jean, ça veut dire que ça y est, le grand jour est arrivé. Enfin, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir contempler de vos yeux l'histoire promise depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Donc rien que l'accoutrement de Jean-Baptiste vient souligner cette réalité, c'est que son ministère prépare, son ministère se focalise plutôt sur celui de Jésus, prépare celui de Jésus. Deuxième raison pour laquelle je vous dis que son ministère en quelque sorte ne sert en quelque sorte qu'à préparer celui de Jésus, eh bien regardez, Jean baptise. Alors vous allez me dire, oui, il s'appelle Jean-Baptiste, oui, c'est Jean le Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jean le Baptiste? Eh bien, il baptise. Beaucoup de spécialistes se tordent le cerveau littéralement pour tenter de comprendre l'origine du baptême de ce Jean-Baptiste. Alors il y a deux grandes options possibles. Soit c'était un baptême qui correspond à des rituels de purification de l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Qumran. Si ça vous intéresse, Qumran, c'est une grotte dans laquelle on a retrouvé un certain nombre de manuscrits qui décrivent des pratiques juives qui étaient presque inconnues jusqu'alors de nous. Certains ont essayé de parler des Esséniens, mais c'est pas très sûr que ce soit ce groupe de juifs qui était là. Et ils avaient apparemment un espèce de baptême de purification très développé, dont ils s'inspiraient depuis l'Ancienne Alliance, depuis les rituels du Lévitique. L'autre possibilité, c'est qu'il y avait également des baptêmes de juifs prosélytes. Vous savez, quand aujourd'hui des gens qui ne sont pas d'origine juive veulent devenir juifs, dans certaines sectes du judaïsme qui se rapprochent des pratiques rabbiniques, eh bien on les baptise, on les immerge dans l'eau. Le truc, c'est qu'on ne peut pas dater l'origine de ce baptême prosélyte, et en plus de cela, ce sont des baptêmes qui se font tout seuls. Là, vous aviez Jean qui prenait les personnes et puis qui les plongeait dans l'eau, apparemment, si l'on suit le texte. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'on ne sait rien de l'origine du baptême de Jean. Ça sort d'un seul coup. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le baptême plutôt qu'un autre signe? On n'en sait absolument rien. Par contre, ce qu'on sait, ce que le texte nous dit, c'est que le baptême de Jean est explicitement connecté à la notion 1 de repentance, 2 de pardon des péchés. Et le texte est clair là-dessus. Autrement dit, ceux qui venaient se faire baptiser par lui, ils se confessaient apparemment publiquement de leurs péchés. Et en fait, ce que fait Jean, c'est qu'il introduit cette pratique du baptême qui, peut-être, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais il l'introduit comme une occasion publique, unique, de confession et de demande de pardon divin. Alors là encore, peut-être que sur ce texte, je ne sais pas si vous l'avez lu récemment, mais moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a arrêté, c'est qu'on a le sentiment, lorsqu'on le lit un peu rapidement, que les gens venaient et se repentaient et semble avoir espéré obtenir le pardon des péchés par le moyen de leur baptême, par le moyen de leur repentance en quelque sorte. Mais nous savons tous que la repentance est nécessaire, mais ce n'est pas la repentance qui nous obtient le pardon des péchés, c'est l'œuvre de Christ à la croix, c'est sa mort, c'est sa résurrection. En réalité, je pense qu'il faut comprendre que le baptême de Jean est un acte préparatoire à la foi en Jésus-Christ. En quelque sorte, le baptême de Jean prépare, au travers de la repentance, le baptême de Christ. Et dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été compris comme ça. Regardez par exemple ce que dit Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, qui était appelé Bouche d'or et qui était un prédicateur du 4e, 5e siècle à Antioche. Il dit « Jean-Baptiste les persuadait de se repentir de leurs péchés afin qu'ils puissent recevoir plus facilement par la suite le pardon en croyant en Christ. Car s'ils n'avaient pas été amenés à la repentance, jamais il n'aurait pu rechercher le pardon. Par conséquent, son baptême n'a aucun autre but que la préparation à la foi en Christ. » Et on en revient à ce que je vous dis, c'est que le ministère de Jean s'éclipse et laisse la place au ministère de Jésus. Le ministère de Jean ne fait que préparer celui de Christ par sa proclamation et par son baptême. Il prépare le message et le ministère de Christ. Donc on voit bien que ce passage, premièrement, n'est pas tant à propos de Jean, mais à propos de Christ. Et deuxièmement, que même quand on regarde le ministère de Jean, il pointe directement vers le ministère de Christ. Mais regardez, c'est là ma troisième remarque, juste regardez le peu de phrases qui nous est donné quant au contenu de la proclamation de Jean-Baptiste, et vous allez voir qu'on est dans la même ligne, le message de Jean-Baptiste ne vise qu'à annoncer Jésus-Christ. Outre le baptême de repentance qu'il prêchait, le texte va mentionner deux autres aspects de la proclamation de Jean. Et là encore, ces deux autres aspects vont pointer vers Christ. Alors il dit deux choses. C'est juste deux choses qui sont ainsi relatées dans ce texte. Il dit « Je ne mérite pas de délier la lanière de ses sandales », première chose. Deuxième chose, il dit « Son baptême est meilleur que le mien ». Je paraphrase ici, mais c'est en substance ce que Jean-Baptiste dit à propos de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « Je ne mérite pas de délier la lanière de ses sandales » Peut-être que vous vous souvenez de la pratique du lavement des pieds présentée dans l'Évangile. Alors nous, pour nous, c'est peut-être pas grand-chose. Vous savez, aujourd'hui, on a des baignoires, on a toutes sortes d'attirails pour se laver, et se laver les pieds est une chose normale, et puis on a les pieds bien protégés, nous qui vivons en Occident au XXIe siècle. Mais à l'époque, on portait des sandales, et les pieds, c'était les endroits du corps qui se salissaient le plus vite. Et il faut le dire, j'ai l'impression que les peuples du 1er siècle avaient un véritable problème avec les pieds, puisque les pieds, n'est-ce pas, étaient l'endroit probablement vu comme le plus humiliant. Et l'une des tâches les plus humiliantes, c'était de délier les sandales d'une autre personne et de lui laver les pieds. C'était généralement les esclaves qui s'occupaient de cette tâche. On a des citations de la littérature grecque du 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, où on dit que des étudiants doivent honorer leur maître en toutes choses, sauf délier la courroie de leurs sandales, ce qui serait la tâche d'un esclave à leurs yeux. Vous voyez, donc c'était vraiment vu comme la pire chose qui pouvait être faite. Quand Jean dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales », il dit « Je ne suis même pas digne d'être son esclave. Je ne suis même pas digne d'être son animal de compagnie. Je ne suis même pas digne d'être dans sa présence. » Bien que je sois moi-même un prophète de Dieu, bien que j'accomplisse moi-même Ésaïe 40, bien que Malachie 3.1 s'accomplisse en moi, bien que je sois ce nouvel Élie, dit-il implicitement, malgré cela, je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Je trouve ça extrêmement fort comme témoignage de Jean. Mais il continue, il leur dit, moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. Alors ce texte peut laisser entendre, on peut avoir l'impression qu'il contraste ici le baptême d'eau du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est souvent comme ça que les choses sont présentées, mais en réalité Jean n'est pas du tout en train de parler de cela ici, c'est pas du tout sa logique. Il ne suggère pas que le baptême de Jésus ne serait pas du tout un baptême d'eau, au contraire. Il ne compare pas non plus son baptême avec ce que dans certains cercles on appelle la deuxième expérience, vous voyez, le fameux baptême du Saint-Esprit où on parlerait en langue après, rien à voir avec ce motif-là, c'est même pas la peine pour moi de venir parler de ce sujet-là. En réalité, il souligne plutôt que le baptême de Jésus, premièrement, sera complètement distinct du sien. Et si vous lisez le livre des Actes, c'est clair que vous avez un baptême de Jean, c'est clair que vous avez un baptême chrétien. Quand Paul rencontre des disciples de Jean à Éphèse en acte 19, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur parle du Saint-Esprit, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, et il les baptise parce qu'ils considèrent qu'ils n'avaient jamais été baptisés du baptême chrétien, du baptême au nom de Jésus, du baptême trinitaire. Bref, il les baptise à ce moment-là. La deuxième chose implicitement que cette phrase dit, c'est que le baptême de Jésus est directement connecté à la réception du Saint-Esprit. Je répète ce que je viens de vous dire, le baptême de Jésus est directement connecté à la réception du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici ? Que quand vous vous faites baptiser, c'est à ce moment-là que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Pas vraiment. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le baptême, dans la perspective des premiers chrétiens, intervient au moment même où vous rendez témoignage que vous avez reçu le Saint-Esprit. Nous, on voit le baptême chrétien souvent comme un acte dissocié de la conversion. Dans la plupart des églises évangéliques qui pratiquent le baptême de professants, qui pratiquent le baptême sur une profession de foi, souvent ce qui se passe, c'est que les personnes professent leur foi, et puis on a un cours de baptême, plus ou moins long. Certaines églises font durer le cours de baptême jusqu'à 20 sessions. J'ai déjà vu ça, sans exagérer. Et vous mettez 3, voire 4 mois, en fonction de la disponibilité des anciens, avant de pouvoir vous faire baptiser. Des fois, tout simplement, il n'y a pas de baptistère disponible quand vous n'avez pas le baptistère dans la salle. Nous, par exemple, ici, le gros problème quand on veut faire des baptêmes, c'est qu'on n'a que ce baptistère. Et j'ai essayé de rentrer dedans. Je vous garantis que je ne rentre pas dedans. C'est un baptistère pour les bébés, n'est-ce pas ? Mais en réalité, les premiers chrétiens n'avaient pas ce problème. Quelqu'un professait sa foi, rendait témoignage qu'il avait reçu le Saint-Esprit, qu'il était régénéré par la puissance de Dieu, et bien il se faisait baptiser immédiatement. Pourquoi ? Parce que pour les premiers chrétiens, le baptême était l'expression même de la profession de foi, le signe que vous aviez reçu le Saint-Esprit. Votre baptême et votre profession de foi étaient un seul et même événement qui rendait témoignage de votre régénération. En d'autres termes, le baptême n'est pas la cause de la réception du Saint-Esprit. Le baptême est le signe, le sceau en quelque sorte, qui vient sceller votre profession de foi et qui démontre que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je fais partie de ces pasteurs qui militent pour un baptême extrêmement rapide. Après la profession de foi, dès que quelqu'un a reçu Christ, je pense que nous devons le baptiser rapidement. Généralement, si on vérifie que la profession de foi est authentique, si on vérifie qu'il a bien compris l'évangile, le candidat ou la candidate a bien compris l'évangile, il faut, selon moi, rassembler l'église et baptiser la personne rapidement, pourquoi pas le dimanche suivant ou la semaine suivante. En tout cas, les lecteurs de Marc étaient certainement très au fait que la réception du Saint-Esprit était la marque du chrétien authentique et que le baptême, la profession de foi y était associée. Le baptême est souvent utilisé comme une métonymie, comme une figure de style pour désigner toute l'expérience de conversion, régénération dans le Nouveau Testament. Ce que Jean est en train de leur dire, il leur dit « Moi je vous baptise pour signifier votre repentance, mais viendra celui qui vous baptisera pour signifier votre régénération, votre nouvelle création, l'accomplissement des promesses que vous attendez. » Alors Jean dit, « Il vient après moi, celui qui est plus fort que moi. » Tout le Nouveau Testament présente Jean comme le plus grand homme de l'Ancienne Alliance. Et l'évangile de Marc s'ouvre en vous présentant le plus grand homme de l'Ancienne Alliance qui dit de lui-même « Il vient après moi celui qui est plus fort que moi ». Et c'est vraiment ça que dit l'original. Il ne dit pas « Il est plus grand, il est plus puissant », il dit « Il est plus fort ». En langage de super-héros, vous voyez. « Il vient après moi celui qui est plus fort que moi ». Laissez-moi vous citer encore un père de l'Église, Cyrille de Jérusalem. Regardez ce que dit Cyrille. « Quand bien même Élie le Tishbite fut enlevé au ciel, il n'était pas plus grand que Jean. Hénoc fut enlevé de la même manière, mais il n'était pas plus grand que Jean. Moïse était le plus grand des législateurs et des prophètes, ils étaient tous admirables, mais aucun n'était plus grand que Jean. » Et Cyrille continue, il dit « Ce n'est pas moi qui comparerai un prophète à un autre, mais c'est le jugement de Jésus lui-même quand il dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est aucun qui soit plus grand que Jean, Luc 7, 28. » Et Cyrille de continuer. Notez qu'il dit « né de femme », pas « né de vierge ». Voilà donc tout le message que nous retrouvons dans ces 8 premiers versets. Jésus-Christ est le plus grand, littéralement le plus fort que le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance. Les temps ont passé, le jour est venu. Le jour de Yahweh, la voix qui crie dans le désert, toutes ces prophéties s'accomplissent alors que l'évangile de Marc s'ouvre et que Jean d'emblée s'efface, comme immédiatement, pour laisser la place à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et alors que nous contemplons sa grandeur, alors que nous contemplons la gloire de sa grâce, alors que nous nous souvenons ensemble qu'il est venu dans le monde à cause de notre péché, alors que nous nous souvenons qu'il est venu glorifier le Père par son œuvre d'abaissement jusqu'à la mort de la croix, nous nous réjouissons ensemble de pouvoir aborder sa vie pendant les semaines qui vont venir. Oui, chers amis, Jésus est bien plus fort que Jean-Baptiste et ces choses devraient nous rendre particulièrement glorieuses. Ces choses glorieuses devraient nous rendre particulièrement joyeux aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir pu encore lire ce texte et contempler ce que tu veux nous apprendre au sujet de notre Sauveur. Oui, il est bien plus grand, bien plus fort que le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance, bien plus grand et bien plus fort que nous. Oui, il est celui que nous attendions, celui qui a le pouvoir, celui qui a la puissance d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te glorifions et nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli. Et Seigneur notre Dieu, nous te prions que cet évangile puisse s'imprimer dans notre cœur et que nous en soyons les dépositaires pour le proclamer. Amen.